On va prendre un moment tout à l'heure après ce petit moment de. J'ai envie de vous partager une pensée qui est en moi. Ce n'est pas un message que j'ai ce matin. C'est une pensée qui est en moi depuis un moment à laquelle je réfléchis. Puis au vu de ce qu'on est en train de vivre, je me dis, mais c'est pour maintenant, ce n'est pas pour mon prochain message qui sera à la fin mars. Donc voilà, ce matin, je vous partage simplement ça pour nous encourager à aller de l'avant, pour nous encourager. Oui, à être debout, à être vaillant. Vous rappelez un petit peu, vous vous rappelez des derniers messages qu'on a entendus, les messages de Riza par rapport à la prière, où Riza nous invitait à inviter Dieu dans nos difficultés, plutôt que de simplement lui demander, sors-moi de là, le faire entrer dans notre situation, et avec ces conséquences qu'il change d'abord les choses en moi. Il change d'abord ce qui doit être transformé en moi. Il guérit ce qui doit être guéri en moi. Et puis surtout aussi que le Seigneur, lui, il voit le dénouement, il voit le but, il voit la fin. Nous, souvent, on est pris par la réalité du moment. Mais le Seigneur, il voit la fin et il voit la victoire. Il voit, ouais, pour qu'il y ait une victoire, il faut qu'il y ait une lutte, il faut qu'il y ait un combat. Et c'est tellement important dans ce qu'on est en train de vivre de réaliser ces choses. Et Dora nous invitait dimanche passé à devenir comme des petits-enfants. Dans les moments difficiles, on peut commencer à vouloir mettre des jalons, nous mettre des sécurités, nous accrocher à certaines choses. Et puis, Jésus, il arrive au second plan. Il nous a parlé de ça. Et c'est plus Jésus qu'on a dans le champ de vision, c'est moi, c'est ma réalité, c'est mes difficultés. Il nous a rappelé l'amour parfait de Jésus pour chacun d'entre nous. Et notre manière d'y répondre, c'est pas par des prestations, il nous parlait de bons points, hein, de bons points qu'on fait, mais c'est par la manifestation de mon attachement à lui. Comment est-ce que je m'attache au Seigneur? Comment est-ce que je m'accroche à lui? Alors c'est vrai, la situation actuelle dans le monde, elle est difficile. On a 2 ans de pandémie derrière nous. On se dit, enfin, ça va un peu se calmer. Ben non, il y a autre chose qui vient. Il y a des guerres, des bruits de guerre. On parle de toutes les catastrophes naturelles, du dérèglement climatique, toutes ces choses qui de plus en plus deviennent oppressantes sur le monde. Il y a la situation dans l'Église. Il y a tellement de domaines où il y a des situations difficiles. On a entendu parler du domaine de la santé. Mais c'est pour certains, c'est au niveau professionnel, ça peut être au niveau financier, relationnel. Certaines personnes ont des situations qui sont tellement figées spirituellement, puis elles attendent que quelque chose se passe. Et puis, dans toutes ces situations, à un moment donné, il peut y avoir le doute, la crainte, la peur, le découragement qui s'installe. Et c'est ce qu'on peut être tenté de vivre aujourd'hui. De baisser les bras, on dit, mais bon, un truc passe, on se dit, c'est enfin bon, ben non, c'est autre chose qui arrive. Et je crois, dans l'Église, on est en train de vivre ça, on est en train de vivre la contestation, l'opposition, non pas entre nous, et ça, c'est une grâce de Dieu de pouvoir être unis ensemble, mais une opposition spirituelle contre l'Église, contre son appel, essayer d'empêcher l'Église d'entrer dans son appel, dans ce qu'elle a à vivre. Alors ça peut être déprimant, ça peut être décourageant. Et puis, moi, depuis plusieurs semaines, il y a un verset qui me trotte toujours dans la tête. Un verset qui est dans Néhémie 8, le verset 10. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Une autre version, ne soyez pas affligés, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Autrement dit, être triste, c'est perdre sa joie. Hein. C'est clair. Il n'y a pas plus clair que ça. Ce texte, il nous dit que la joie fait notre force. Si la joie disparaît, nos forces disparaissent. Et on en arrive à, ça sert à quoi? Ça sert à quoi que je prie? Ça sert à quoi que je lise ma Bible? Ça sert à quoi que je me lève le dimanche matin pour aller au culte? Ça sert à quoi? On est découragé. On n'a plus la force. Plus les capacités. Et Néhémie, c'est un personnage qui m'interpelle parce que dans ce qu'il a été appelé à vivre, il a dû faire face à l'opposition. Il a dû faire face à une opposition forte, même très forte. Et on peut le lire dans les premiers chapitres de Néhémie, je ne vais pas vous les lire ce matin. Mais Dieu a vraiment conduit Néhémie, qui est entré dans le projet que Dieu avait pour lui, de retourner à Jérusalem pour reconstruire la muraille, les murailles de Jérusalem. Elles avaient été détruites au moment de la déportation. Et Dieu a mis sur le cœur de Néhémie, ce besoin de retourner à Jérusalem et reconstruire cette muraille. Néhémie, lui, il avait une bonne place auprès du roi, là où il était en déportation, il était bien vu, mais il a tout laissé ça pour entrer dans le projet de Dieu, dans le projet que Dieu mettait sur son cœur. Et on voit dans les premiers chapitres de Néhémie qu'il est même envoyé par le roi à un moment donné. Il est envoyé en mission par le roi, qui lui donne le bois qu'il a besoin pour reconstruire les portes. Enfin, il y a tout qui s'ouvre pour lui, c'est génial, quoi. C'est, waouh. Là, je suis dans le plan de Dieu parce que le chemin, il s'ouvre, c'est, la voie est toute droite, c'est parfait, c'est génial. Je peux y aller, je peux construire cette muraille. Et il va entraîner le peuple à sa suite pour reconstruire cette muraille. Et pourtant, très vite, il sera confronté à la contestation de personnes qui sont influentes autour de lui, à l'opposition des peuples qui sont autour de Jérusalem. Il va être confronté aux moqueries. Mais Néhémie a persévéré. On le lit dans Néhémie 3, à partir du verset 38. Je vais juste lire ces quelques versets. Certaines versions, les anciennes versions de second, c'est Néhémie 4 à partir du verset 6. Donc voilà, suivant la Bible que vous avez, c'est pas tout à fait à la même place. Néhémie 3, 38. Nous avons continué à reconstruire la muraille de telle sorte qu'elle soit partout consolidée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple a pris ce travail à cœur. Cependant, Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens ont été très irrités en apprenant que la restauration des murs de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à être bouchées. Ils se sont tous ensemble ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Il y a des difficultés, mais malgré les difficultés, la construction avance. Le peuple persévère. À un moment donné, on en arrive à la moitié de la hauteur de la muraille. Et je trouve intéressant cette moitié de hauteur de muraille. Pour ceux qui travaillent un peu dans la construction, quand on construit un mur, les premières briques en bas, ça va. Hein, plus ça monte, mieux ça va, même au départ, parce que c'est moins bas. On a une bonne hauteur à un moment donné, 50, 60 cm, 80 cm, 1 mètre, ça va bien. Après, gentiment, il faut commencer à lever les briques, puis ça vient plus haut, puis il faut commencer à grimper sur un échafaudage, et ça devient de plus en plus pénible. Et c'est quand ça devient plus difficile, quand la fatigue commence à se faire sentir, que l'ennemi attaque. C'est quand mon engagement commence à avoir un impact, quand il commence à y avoir un résultat qui est visible, que l'ennemi attaque. Et c'est toujours la même arme, le découragement. Ça sert à quoi? Finalement, ça sert à quoi? On se fatigue ensuite, ça sert à quoi? Et au verset 4, c'est ce qui est dit. Toutefois, les Judéens disaient, la force des porteurs de fardeaux va faiblissant et il y a tellement de décombres que nous ne parviendrons pas à reconstruire la muraille. Le découragement. Et pourtant, la moitié de la muraille est reconstruite. D'un côté, la moitié de la muraille. De l'autre côté, le tas de cailloux, il a baissé. En principe, il a baissé de moitié puisque la moitié de la muraille est montée. Mais le regard, il est sur ce tas de cailloux qui reste à monter, qu'il faut mettre tout en haut, qu'il faut monter sur la muraille. Et c'est le découragement. Et c'est le top départ pour que l'ennemi puisse attaquer, qu'il puisse nous faire la peau, parce que c'est là qu'on est vulnérable. Alors comment est-ce qu'on va réagir face au découragement? Et il y a une clé tellement importante, il y en a plusieurs dans l'ennemi, mais une qui est tellement importante, et qui est en lien avec ce qui a été dit lors des derniers messages, Néhémie 4, 3, nous avons prié notre Dieu. nous avons prié notre Dieu. Ne ça sert à rien, c'est faux. Quand on n'en peut plus, c'est le moment. C'est là le moment de prier. Dans les Actes des Apôtres, vous connaissez l'histoire de Pierre et Jean qui montent au temple et ils croisent ce boiteux. Ils y disent, mais il aimerait quelque chose. Ils lui disent, mais on n'a rien. Mais ce qu'on a, on te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce boiteux est guéri. C'est la joie autour de ce boiteux. C'est les réjouissances parce qu'il est guéri. Il y a quelque chose de génial qui s'est passé. Mais en même temps, il y a de l'opposition. Les chefs religieux ne sont pas d'accord avec ça. Ils ne veulent pas de ça. Il y a une contestation. Les disciples sont passés devant les tribunaux. Ils sont jugés. Il leur est formellement interdit de continuer de parler au nom de ce Jésus et d'agir en son nom. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont relâchés? Ils s'en vont, ils vont retrouver les leurs et ils prient ensemble. Et leur prière, ce n'est pas des gémissements simplement, ce n'est pas des gémissements. Seigneur, tu vois comment ça se passe, tu vois, on n'en peut plus. Ouvre-nous un couloir de sortie ou je ne sais pas quoi, mais fais quelque chose. Non, donne à tes serviteurs de pouvoir annoncer ta parole avec assurance. C'était leur prière. Ils ont persévéré dans cette prière-là. Et à un moment donné, les murs ont tremblé, tous ont été remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est dit dans la suite du texte. Ils annoncent l'Évangile avec assurance. Exactement ce qu'ils demandaient. Exactement ce qu'ils demandaient. Dieu les a fortifiés. Ça fait 2 ans, peut-être pas tout à fait, qu'on vit les soirées jeûne et prière. Un peu moins peut-être. Ouais. Une année et demie, oui. Une année et demie que, plus ou moins toutes les 2 semaines, parfois un peu plus loin, plus espacé, on se retrouve pour prier ensemble. Où on est entraîné dans la prière par nos Néhémie. Où on est encouragé, où on est fortifié. Où on nous dit, mais persévérons, persévérez. Persévérer dans les difficultés, un peu comme Abraham, espérant contre toute espérance. Et c'est vrai qu'on a l'impression, ben voilà, on prie, mais ça sert à quoi? Et c'est dans les moments de difficulté qu'on voit le résultat. Et moi j'ai été frappé, pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp de Communion Fraternelle, de voir pas seulement par rapport à Florence qu'elle vit actuellement, mais par rapport à d'autres personnes aussi, comme les gens se lèvent dans la prière, comme les gens, oui, sont présents, ils sont là. Le mur se construit, mais il y a encore à construire. Et on est appelé à aller plus loin, on est appelé à persévérer, en église, quand on est ensemble, à la maison, partout où on est, mais appelé à persévérer, à devenir des leaders qui n'écartent pas le tas de cailloux, mais qui regardent la muraille qui est en train de se construire et qui entraînent les autres à renforcer cette muraille, là où il peut y avoir des faiblesses. On est là les uns pour les autres. L'Église, elle est appelée à regarder ensemble dans la même direction. Alors vous regardez tout cela compte. Si je me retourne, je suis face à un mur, c'est bien. On peut regarder tous dans la même direction, mais regarder face à un mur. Le mur des impossibilités, le mur de la maladie, du découragement, le mur des relations rompues, des catastrophes, des guerres, des épidémies. Et puis on peut en mettre. Un mur, c'est un tas de cailloux, mais qui est bien plus haut que nous, qui est infranchissable. Il y a un verset qu'on entend beaucoup ces temps, de Luc 21-28, « Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous, pardon, et relevez la tête. » Parce que vos délivrances sont proches. Relevez la tête. Il y a ailleurs à regarder que le mur qui est devant nous. Regardez plus haut. Regardez à la croix. Regardez à Jésus. Regardez le but final. Il faut persévérer. Et on a besoin de persévérer. On a besoin de persévérer ensemble parce que le découragement nous guette de toute manière, l'un ou l'autre, une fois ou l'autre. Mais on a besoin d'être à ce moment-là repris, fortifié par ceux qui nous entourent pour continuer d'aller de l'avant. Donc laissons le Seigneur nous fortifier, laissons le Seigneur nous transformer, regardons à cette croix, toujours à cette croix, quoi qu'il se passe. Je vais pour terminer simplement pour prendre un texte dans Hébreux 12. Après ce moment de partage, on va vivre la Sainte Cène, on va prendre un chant où on aura le temps aussi de vraiment se remettre en question personnellement. Moi, dans ce que je vis, dans ce que je suis, dans ma réalité, qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je vois? On va prendre ce temps. On va vivre la Sainte Cène pour pouvoir dire au Seigneur, mais voilà, là, j'ai mes limites. Mais toi, au travers de la croix, tu m'as ouvert le chemin jusqu'à l'éternité. Tu m'as ouvert un chemin. Et puis on prendra ensemble un temps de prière, un temps d'intercession par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Ensemble, être fort face à l'ennemi. Hébreux 12, 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Le Seigneur Jésus a vécu l'opposition, et il a vécu une telle opposition, mais il a persévéré, il est allé jusqu'au bout, pour que toi, on ait cette possibilité d'aller au-delà des réalités d'aujourd'hui, pour voir plus loin, pour voir le dénouement, voir la victoire, voir cette victoire incontestable de Dieu dans les situations qui peuvent être difficiles aujourd'hui. Alors pendant ce chant, prenons vraiment le temps d'écouter Dieu et de lui répondre aussi au travers des paroles de ce chant. De simplement lui répondre, voilà, moi je suis là, mais je te dis oui, je vais aller plus loin. Et on vous distribuera la Sainte Cène pendant ce moment. On la partagera ensemble tout à l'heure.